sera reconnu comme étant celui de l'accomplissement. C'était comme si une voix céleste lui avait soufflé les gestes à exécuter, et que dès lors, il lui avait paru évident. Alors lentement, elle reprit son ouvrage. En y réfléchissant cette fois, elle affina les entailles, assura les traits, termina ici une courbe, là une pointe, un creux. Et ainsi, elle resta un long moment à achever ce qui se révéla être un magnifique bâton de marche. Le soleil avait fort descendu derrière la ligne des montagnes quand la jeune fille se leva enfin, satisfaite, glissa le bâton sous son bras et ordonna aux chiens de rassembler les bêtes. Le chemin du retour fut un peu plus compliqué que l'aller. Et il lui fallut courir plusieurs fois pour empêcher le troupeau de se disperser. Devant la bergerie, elle trouva Luc qui compta les bêtes et les fit entrer. « Hé, tu t'es bien débrouillé, la Picciotto. Il n'en manque pas une seule. Ce sont tes chiens qui sont bien dressés, » répondit humblement à Alice. Mais il y avait sur son visage un sourire qui ne manquait pas de fierté. Luc referma la bergerie, et ensemble ils se mirent en route vers la petite maison où Marie et sa mère les attendaient pour souper. « Tiens, c'est pour toi, » expliqua la jeune fille en lui tendant le bâton qu'elle avait sculpté. « Per Deo, où est-ce que tu as trouvé ça ?»«
Je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai fait là-haut, à Permal. »
« Cet après-midi ?» demanda le berger qui peinait à y croire.
« Oui, en gardant les bêtes. »«
Tu te moques ?»«
Non. »
Luc, sincèrement impressionné, inspecta l'œuvre d'Alice, passant ses doigts sur les fins ornements qu'elle avait sculptés.
« Tu fais souvent cela ?» demanda-t-il.
« Non, c'est la première fois. »
« Alors c'est que tu as un don, la Picciotto. » La jeune fille haussa timidement les épaules. « Ce serait dommage de ne pas l'exploiter, tu sais. « Tiens, ça me donne une idée. Viens avec moi, à mon tour de te faire un cadeau. » Chapitre 83. C'est à la tombée du soir que nous retrouvons Andreas Saint-Loup qui, vêtu comme un moine, entre dans la ville d'Orléans, le visage plongé dans l'ombre d'une ample capuche. Ayant mémorisé, on se doute avec quelle aisance, le trajet qu'il devait accomplir pour rejoindre l'église Saint-Aignan, l'apothicaire traversa la ville sans même relever la tête, les mains enfoncées dans les manches de sa bure à la manière d'un pénitent. En chemin, il croisa trois soldats qui interrogeaient un commerçant et qui ne le virent point passer. Accélérant le pas, il s'engouffra dans les ruelles étroites qui menaient à la bâtisse religieuse, dont il fit le tour par le sud, pénétrant dans la crypte par l'un des corridors situés dans les bas-côtés de l'église supérieure. La grotte creusée dans la pierre blanche d'Orléans était éclairé par la lueur orange de rangées de cierges. Il y avait là, bien sûr, quelques pèlerins venus se recueillir devant les reliques de Saint-Aignan, évêque et saint patron de la ville, qu'il défendit en l'an 451 contre les attaques d'Attila, roi des Huns. Andreas, faisant mine de prier lui aussi, passa lentement devant le martyrium, que l'on pouvait contempler à travers quatre ouvertures dans un mur, puis gagna l'ombre des piliers du déambulatoire dont les chapiteaux étaient décorés de peintures colorées. À l'abri des regards, il se faufila alors de l'autre côté de la chapelle souterraine. La crypte Saint-Aignan, en ce temps-là, était un vrai dédale de piliers, d'arches et d'alcôves, héritage des nombreuses constructions et reconstructions successives qu'elle avait connues. Colin avait expliqué à l'apothicaire dans quelle partie du souterrain devait a priori se trouver le passage qui menait à la commanderie templière. Mais il n'avait pu être plus précis. Aussi, après avoir rapidement inspecté ce côté-là de la crypte et constaté qu'il n'y discernait aucune porte ou ouverture, Andreas revint sur ses pas, le front soucieux. Derrière lui, il entendait l'écho des prières et des génuflexions des fidèles. Comment, sans véritable piste, trouver ce passage? Et si Colin s'était trompé? Si ce n'était qu'une vieille légende et que de passage il n'y avait point? Cette partie de la crypte manquait cruellement de lumière, mais Andreas ne pouvait allumer une torche de peur de se faire remarquer. Il avait déjà pris beaucoup de risques en s'isolant ici. Aussi, s'il ne pouvait fouiller davantage les lieux de ses propres mains, il lui fallait donc les fouiller par l'esprit, les passer au crible de la sagacité. La sagacité, avons-nous dit? La chose sans doute semblera bien vague au lecteur. Par quel miracle l'apothicaire pouvait-il trouver un passage qu'il ne connaissait pas? C'est qu'Andreas n'était pas dépourvu non plus d'imagination.